Les printemps arabes de 2011, c'est le sujet cette semaine des Jeudis en question. Rabah Attaf, journaliste et auteur de Place Tahrir, une révolution inachevée, est l'invité de l'association.
Tout d'abord, je vous remercie d'avoir fait le déplacement et de l'intérêt que vous portez à l'Égypte et à ce qui se passe plus généralement dans le monde arabe. Je vous remercie d'autant plus que l'information qu'on reçoit en France est souvent tronquée et déformée. Et qu'on a, nous, journalistes, je suis grand reporter spécialiste du monde arabe depuis maintenant 25 ans, on a de plus en plus de mal à faire passer la réalité des événements. Mon premier contact avec le monde arabe a été évidemment l'Algérie, puisque je suis algérienne, binationale, née en France, et que je me suis retrouvée en octobre 88 au milieu des émeutiers d'Alger. À l'époque, il n'y avait pas Internet, l'information ne circulait pas, il y avait un embargo. Nous étions très peu de journalistes dans la rue et évidemment, l'information était totalement verrouillée. Donc en France, l'écho était qu'en Algérie, il y avait des émeutes du pain. En fait, pas du tout. Il s'est passé en Algérie exactement ce que je viens de voir cette année à Midan al-Tahrir. Un peuple complètement opprimé et notamment la jeunesse populaire qui d'un coup s'est soulevée pour demander un changement de régime. Sauf qu'à l'époque, l'info étant verrouillée, l'armée est descendue, a tiré dans le tas, ça s'est soldé par plus de 1500 morts en 3 jours, des gens torturés, des gens emprisonnés, et un semblant après de démocratisation du pays qui s'est mis en route, avec en 89 un changement de constitution, et en 91 les premières élections dites libres, qui ont été évidemment suspendues, puisqu'à ce moment-là, la structure qui avait pris place du président, qui s'appelait le Haut Conseil d'État, qui était formé de militaires, a eu très peur, effectivement, que le Front islamique du Salut, qui est un parti, social, conservateur, de droite religieux, ne réalise le vœu du peuple, puisque c'était un parti populaire, c'est-à-dire un vrai changement de régime. Et il s'en est suivi 10 ans de répression, durant lesquels 250 000 Algériens sont morts, 40 000 disparus, dont on a très peu parlé en France. Les familles de disparus en Algérie continuent à se battre pour que la vérité soit faite sur la disparition des leurs et pour que justice leur soit rendue. Et elles ont pris, je pense, le même chemin que les Argentines en 73, qui, elles, se sont battues pieds et poings pour qu'au bout de 40 ans, il y ait une démocratisation du pays. Donc je fais partie de celles, des rares personnes en France, qui ont appuyé le mouvement des disparus en Algérie, qui l'ont fait émerger d'abord en leur procurant un drapeau pour qu'elle soit visible, médiatiquement visible, et qui les a accompagnés pendant plus de 10 ans pour que leur voix soit entendue auprès de l'ONU. Et le résultat, c'est que depuis maintenant les années 2000, tous les ans, l'Algérie est condamnée devant le Haut Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui demande des comptes nominativement sur ces milliers de disparus, dossier par dossier. Voilà. Donc quand j'ai vu ce qui se passait en Égypte, la première image qui m'est arrivée, ça a été la place Tahrir, avec ses tentes au centre, et puis toute une foule qui tourne autour. Et pour moi, ça m'a parlé très fort, parce que ça m'a fait penser à la Kaaba. Je suis musulmane. Et soudain, j'ai senti que quelque chose d'important était en train de se réaliser. Dans cette Égypte que je connais bien, puisque j'avais réalisé en 90, un film avec Naguib Mahfouz pour la télévision Arte. J'étais pas retournée en Égypte depuis. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, ça a été le choc. Je suis arrivée non pas au début, j'ai laissé passer la première vague du début. Je suis arrivée après la chute de Moubarak. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce sont ces périodes charnières qui m'intéressent, ces périodes où effectivement la réalité de ce qui s'est déroulé commence à se révéler. Et c'est là-dessus que j'axe tout le temps mon témoignage de journaliste, non pas sur la première apparence ou de ce qu'on a vu. En fait, on a vu le film, et j'aimerais d'ailleurs savoir quelle lecture vous en faites, avec énormément d'enthousiasme, avec des gens qui sont là, avec une fraternisation, avec du rêve, beaucoup de rêve. Je suis arrivée à un moment, à la fin du film, au moment où la femme dit « nous restons », je suis arrivée et j'ai accompagné ceux qui sont restés. C'est-à-dire que j'ai occupé avec eux la place Tahrir. Dans ma façon de travailler, J'appartiens à une école qui est l'immersion. J'ai travaillé pendant 15 ans pour le magazine Actuel. Donc j'ai fait de l'immersion. Je suis restée sur place et je suis allée aussi voir ce qui se passait autour. Pour commencer aussi à avoir une grille analytique par rapport à ce qui déroulait sous mes yeux. Parce qu'effectivement, en tant que journaliste, on est très vite emporté aussi par l'événement et par la rapidité des choses. Et on oublie souvent de prendre de la distance pour mettre un nom sur cette réalité. Donc je suis arrivée en Égypte le 27 février 2011. J'ai quitté l'Égypte le 8 mai 2011 et donc j'ai un déroulé principalement d'une occupation menée par la jeunesse populaire qui est restée, donc par les classes populaires qui sont restées, les catégories qui étaient au début du 25 janvier jusqu'à février, jusqu'à la chute de Moubarak. Donc ces catégories-là qui appartiennent plus à des classes moyennes, une jeunesse instruite, la jeunesse Twitter, Facebook, etc., n'étaient plus là, puisqu'à ce moment-là, donc le SCAF, le Conseil suprême des forces armées, donc avait démis Moubarak. En mars, ils ont nommé un premier ministre, ils ont remplacé Ahmed Shafik et ils ont nommé Hossam Sharaf. Et Hossam Sharaf a convié tout le monde à une espèce de table de négociation où on allait, soi-disant, les associer au processus démocratique. Donc, toutes ces personnes-là, notamment les personnes appartenant au mouvement de jeunesse, mouvement du 6 avril, ceux qui étaient autour des mouvements autour de la mort de Khaled Saïd, le mouvement Itilaf qui était donc principalement la coordination des jeunes de la révolution. Ces gens-là avaient formé une coordination, sont allés donc discuter avec le Premier ministre et avec le SCAF sur un calendrier politique de démocratisation, entre guillemets. Et pendant ce temps, donc, la place était occupée par la jeunesse populaire qui était complètement livrée à elle-même, qui essayait de s'organiser. Donc, j'ai assisté à des expériences d'organisation de gens qui, petit à petit, prenaient conscience qu'ils devaient mettre en perspective leur lutte, prendre contact avec des politiques, avec des secteurs de la société qui avaient été en lutte. Je pense notamment aux travailleurs et aux syndicalistes de Mahalla Kubra, qui avait mené des grandes luttes dans les années 2008 jusqu'à maintenant et qui, quelque part, sont effectivement à l'origine de tout ce mouvement populaire. Ce mouvement populaire n'est pas né de Facebook ou de Twitter. Il y a une lame de fond qui a traversé l'Égypte depuis à peu près 2006 où, avec la mutation économique qui s'est opérée au niveau mondial, notamment les filatures et la sidérurgie ont été fortement touchées et les travailleurs se sont retrouvés sans emploi. Donc se sont organisés, on a vu la naissance des premiers syndicats autonomes et petit à petit il y a eu des grèves très dures et en 2008, donc le 6 avril, l'armée tire, parce que c'est une armée qui tire, l'armée égyptienne, comme toutes les armées du monde, en sous-régime dictatorial. Et le 6 avril, donc, des travailleurs meurent à Mahalla Kubra, qui est à deux pas du Caire. C'est les plus grandes filatures égyptiennes à deux pas du Caire. D'où la naissance du mouvement du 6 avril, donc des jeunes kérotes, cette fois des classes moyennes instruites, qui décident d'appuyer le mouvement des travailleurs syndicaux. Mais c'est une poignée de personnes, hein, c'est cinq personnes, c'est pas plus. Je me retrouve donc avec des gens quasiment livrés à eux-mêmes et surtout livrés au début de la répression. Alors, première répression, le 9 mars, l'armée rentre dans Tahrir, la journée. La veille, il y avait eu une grande journée de mobilisation, donc la journée de 8 mars, mobilisation des femmes, évidemment, qui ont défilé, énormément de monde sur la place Tahrir. Et en fin de journée, effectivement, vu que j'étais la seule journaliste en fait présente sur le Midan, quoi. Moi, ça me paraît absurde de dire ça, mais c'est la réalité, c'est la malheureuse réalité. Il n'y avait plus personne. Donc, j'ai été arrêtée, j'ai été mise aux arrêts dans le musée, à l'endroit où justement les gens qui avaient été arrêtés étaient torturés. C'est la deuxième fois de ma vie que je me retrouve dans une situation arrêtée dans un endroit où on torture les gens. simultanément. La première fois, c'était en Algérie, en 88. J'avais été détenue 10 jours au secret et mise dans une caserne militaire où toutes les nuits, j'entendais les cris des suppliciés. Bon. Donc j'avais cette expérience qui me servait encore une fois aussi à surmonter effectivement la réalité. On m'a arrêtée parce qu'effectivement, on voulait pas que de journalistes soient témoins de ce qui allait se dérouler. Et ce qui s'est déroulé, c'est que l'armée est rentrée sur le Meydan Tahrir, donc place Tahrir, avec, mais vraiment très fortement, donc services spéciaux, aidés de ce qu'ils appellent communément des baltagia, mais en fait, c'est les hommes de main du régime, en fait, hein, habituels, des gens qu'on paye, et ils ont détruit tout le campement qui était sur le Meydan Tahrir, en pensant que ça allait mettre fin complètement aux manifestations. Sauf que ces résistants-là, donc j'ai écrit un papier qui est disponible sur Internet, je l'avais écrit pour les Inrecuptibles, j'étais partie pour les Inrecuptibles, et ce papier, vous pouvez le trouver sur le site Tlaxcala, qui s'appelle « Avec les résistants de la République libre d'Égypte », parce que j'étais tombée dans une espèce de République libre où les gens s'étaient organisés, ils avaient un campement, ils se géraient, ils avaient commencé à faire des listes de revendications. C'est très intéressant comme processus d'apprentissage de la démocratie et du collectif. J'ai été passionnée par ça. Et de gens qui petit à petit entraient en politique. Donc répression de ce mouvement-là. Mais les gens continuaient du coup à manifester tous les jours, donc à occuper la place du matin jusqu'à l'heure du couvre-feu, jusqu'à 2h du matin, et à organiser tous les vendredis ce qu'ils espéraient être des millionnias, c'est-à-dire arriver à mobiliser de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait 1 million à nouveau de personnes sur la place Tahrir. Donc tous les vendredis, grosse manifestation qui réunissait à peu près 30 000 à 50 000 personnes, donc un petit peu moins que les journées effectivement chaudes de janvier et début février, mais quand même une capacité de mobilisation réelle. Et cette fois, la mobilisation, c'était les populaires, vraiment. Et arrive finalement ce 19 mars, jour de référendum, puisque un deal s'opère. La coalition des jeunes révolutionnaires plus les frères musulmans qui étaient vraiment en force sur la place Tahrir, je tiens à le dire, c'est que quand il y a eu tout ce mouvement de partisans de Moubarak qui ont envahi la place pour essayer de casser le mouvement début février, les 2 et 3 février, ceux qui ont défendu la place sont les jeunesses organisées des frères musulmans. Ce qu'on ne dit pas du tout, mais ce sont les organisations, ce sont les jeunes les plus formés politiquement d'Égypte. C'est la réalité. Ils ont défendu la place pied à pied. Ceux qui sont morts sont évidemment les mêmes, ceux qui n'ont rien à perdre, c'est-à-dire les pauvres malheureux populaires, comme d'habitude. Ce 19 mars, donc les frères musulmans acceptent le référendum. Les salafis acceptent le référendum, les partis de gauche, ce qui reste des partis de gauche, très peu, donc c'est acceptent le référendum, et le lendemain du 19 mars, les Égyptiens ont la gueule de bois parce qu'ils ont voté pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ceux qui ont voté oui ne comprennent pas pourquoi ils ont voté oui, ceux qui votent non ne comprennent pas pourquoi ils ont voté non. Puisque le deal, c'était quoi ? Amendement de la Constitution et non pas réforme totale de la Constitution. Donc quelques petits articles qui ont sauté, notamment sur la durée du mandat présidentiel, sur l'ouverture politique, donc en direction de certains partis, avec des conditions draconiennes, pouvoir justifier de 4000 militants, etc., etc. Donc des conditions assez draconiennes, notamment pour les nouveaux partis qui n'ont pas le temps de s'organiser et de recruter. Et donc, le 19 mars, la contestation, au lendemain, la contestation reprend. Place Tahrir, ça commence vraiment à manifester, les manifestations gonflent, et arrive ce fameux 8 mars, dont je parle dans ce papier, où effectivement, les frères musulmans appellent à manifester, donc la place se remplit, puisque les Égyptiens savent que quand les frères musulmans appellent à manifester, la manifestation est autorisée. Donc il ne risque pas d'y avoir répression, donc tout le monde vient, et les gens viennent en famille. Et ce 8 avril, il se produit quelque chose qui n'était pas attendu du tout, c'est qu'un bataillon complet de militaires de Suez vienne sur la place. Donc ça change complètement la donne au regard du Conseil suprême des forces armées qui décide le soir même effectivement de réprimer fortement. Et là, on a une très forte répression sur la place. L'armée réinvestit la place, tire vraiment dans le tas, tire d'abord en l'air puis tire dans le tas. Ça s'est passé à 3 heures du matin. L'objectif, c'est de s'emparer de ces officiers qui avaient osé les défier, évidemment, et de mettre un terme, mais une fois vraiment un terme, à toute manifestation en Égypte. Donc, il s'en est suivi une très forte répression, et des tas de gens ont été arrêtés. Depuis mars, des gens avaient été arrêtés et déférés devant les tribunaux militaires. Et on compte aujourd'hui à peu près 12 000 personnes incarcérées en Égypte. Je rappelle que sous Moubarak, il y en avait 2 000. Ça fait quand même une sacrée différence. 12 000 dont on ne parle pas beaucoup. En dehors d'orgas comme Amnesty International, qui ont signalé quelques chiffres, ou la FIDH, on n'a pas de papier sur la répression qui s'est opérée en Égypte. On a énormément de productions en matière de révolution et d'entretien du mythe de la révolution. C'est vrai que, moi, dans l'analyse que je fais, je parle d'intifada, de révolte populaire, mais en aucun cas de révolution. Pourquoi ? Parce qu'une révolution, c'est censé changer un système, donc et aller au bout d'un processus. Là, je pense qu'il s'est passé en Égypte la même chose que ce que j'ai vu se faire en octobre 88, c'est-à-dire, à un moment clé, laisser parler la rue, s'emparer de la rue, c'est ce qu'ils ont fait en encadrant la rue, notamment avec les frères musulmans, pour arriver petit à petit à refluer les manifestations et faire un coup d'État. C'est ce qui s'est passé en Algérie en 88. Exactement. Donc c'est vrai que mon expérience m'a servi à voir tout de suite ce qui était en train de se dérouler devant moi, même si les jeunes étaient très enthousiastes et y croyaient. Ils ont vraiment rêvé la révolution. Donc ils ont vécu des choses extraordinaires, ils ont vécu des expériences collectives, et je pense que c'est fondamental pour eux, parce que ces jeunes, ceux qui n'ont pas arrêté et ceux qui ont encore ces souvenirs dans la tête, ne l'oublieront jamais. C'est la première pierre de leur apprentissage politique. Ça, c'est important. La deuxième chose que je tenais à signaler, c'était que il y a eu répression place Tahrir, mais au début des journées des premières journées de la révolte populaire, le 25, 26, 27, les gens étaient dans les places, dans les quartiers populaires, et l'armée a tiré. L'armée égyptienne n'est en aucun cas une armée révolutionnaire. C'est pas l'armée qui a protégé la révolution. Ça, c'est le mythe qui a été tout de suite plaqué. Et ça a été... J'ai assisté à un truc simultané de récupération, mais c'est extraordinaire, c'était du temps réel, quoi. C'était plus rapide qu'Internet, là. C'était la place envahie par des affiches, vraiment une publicité extraordinaire dans tous les médias, dans la télé. C'est-à-dire qu'à la limite, Tantawi, c'était chez Guevara, quoi. Effectivement, j'ai assisté vraiment à une récupération simultanée d'un mouvement de contestation populaire, et tout de suite après, à une forte répression qui n'est pas terminée. Là, j'en viens. Effectivement, régulièrement, maintenant, il y a des arrestations, et maintenant, il y a des arrestations au domicile des gens. Alors, le Caire, c'est quand même 80 millions de personnes. L'information circule, mais difficilement. C'est-à-dire que pendant un temps, ils ont ouvert Twitter, ils ont ouvert Internet, etc., mais ils les verrouillent quand ils veulent, hein. L'info circule, mais puis elle circule plus d'un coup, et puis elle recircule, etc. Tout est par flux en Égypte, en fait. Donc je pense qu'il y a une volonté, si vous voulez, des autorités égyptiennes, et notamment du Conseil suprême des forces armées, de maintenir une vitrine, donc de dire le Conseil suprême des armées est le garant de la démocratisation du pays. Je pense que c'est le deal qu'ils ont passé avec les États-Unis. Mais en même temps, il y a une volonté de ce pouvoir militaire maintenant de maintenir le système en place et d'aller vers ce qu'on appelle un processus de ce que les Américains appellent de justice transitionnelle. Donc je m'explique. Il y a à peu près maintenant plus de 12 ans, dans les années 2000, J'ai assisté personnellement à des ateliers de Freedom House qui étaient destinés en fait aux sociétés maghrébines, donc aux Marocains d'abord, ensuite aux Algériens. Il s'agissait pour cette organisation qui dépend du département d'État américain de repérer les potentiels acteurs des sociétés civiles, de les former à des processus de justice transitionnelle. Alors justice transitionnelle, ça veut dire quoi ? C'est un processus qui mène non pas au changement d'un système, mais à une réforme sur le temps du système, de façon à ce que les intérêts stratégiques soient préservés. Alors au Maroc, ça a donné quoi, par exemple, quand il a fallu passer d'Hassan II à Mohamed VI, le processus avait démarré avant, sur la fin de règne de Hassan II. On a effectivement mis en place des commissions où des soi-disant coupables venaient faire amende honorable devant les familles de gens qui avaient été torturés ou emprisonnés à Tazmamart, etc., etc., ou de gens qui avaient disparu. Mais en aucun cas, il n'y a eu de tribunaux qui ont jugé des personnes. C'est ça que les Américains appellent justice transitionnelle. Ça permet quoi ? Ça permet d'ouvrir le champ politique à des catégories qui aspirent naturellement aux commandes du pouvoir. Je pense notamment aux catégories sociales, aux classes moyennes, qui sont quand même infimes en Égypte. Donc d'ouvrir le champ à ces catégories-là qui sont constituées, qui ont leurs partis libéraux, etc. Mais en aucun cas d'ouvrir à une réelle démocratisation qui permette aux gens de catégories sociales populaires d'avoir leur représentation. Donc en Égypte, on arrive à un schéma où effectivement, dans un premier temps, on a des élections le 29 novembre et les résultats sont connus d'avance. C'est-à-dire qu'on va avoir un raz-de-marée des frères musulmans, ça c'est clair, qui sont la première force organisée du pays et qui sont d'autant plus forts aujourd'hui qu'ils sont vraiment appuyés par le système. Avec, à côté, effectivement, une petite ouverture pour les anciens partis nasséristes, il y a encore des nasséristes en Égypte, pour le WAFT, le Parti National, et quelques nouveaux partis libéraux. Donc on va avoir effectivement une grosse majorité de frères musulmans à l'Assemblée, ce qui permet une bonne répartition des rôles, c'est-à-dire une gestion de la société par les frères musulmans et une gestion des affaires qui continue par les gens du système. C'est ce que je peux en dire maintenant de ces élections. Sachant que je tiens à préciser que les frères musulmans ont leur légitimité en Égypte. C'est un parti qui a été fortement réprimé sous Sadat, sous Moubarak, etc. J'ai connu des dirigeants des frères musulmans, j'en ai interviewé, j'en connais qui sont morts en prison. Ils ont fait un travail sur la société, effectivement. On ne peut pas le reprocher de ne pas avoir effectivement défendu leur programme politique, contrairement aux partis de gauche qui, eux, petit à petit, se sont recroquevillés. C'est les classes intellectuelles, notamment urbaines, qui sont recroquevillées sur elles-mêmes et qui n'ont pas fait le travail que faisaient les frères musulmans auprès des catégories sociales populaires. Donc, c'est pour être clair, parce que j'ai vu ce qui s'est passé sur l'Algérie avec le fils et les retentissements qu'il y a eu en France, où soudain il y a eu diabolisation d'un parti qui était légitime, islamiste bien sûr, Front Islamique du Salut, diabolisation et mise en valeur dans les médias français de gens qui étaient affichés comme démocrates, mais qui, dans la réalité, finalement, n'aspiraient qu'à avoir leur part du pouvoir, tout simplement, et qui, effectivement, diabolisaient la représentation des catégories populaires au nom d'une guerre contre l'intégrisme, etc., etc. Donc, en Égypte, les frères musulmans ressemblent à des protestants américains, en vrai. C'est-à-dire qu'ils ont fait un alliage entre la religion, donc la morale religieuse qui permet le contrôle des mœurs, etc., dont le contrôle des vies privées, et l'argent, puisque ce sont des affairistes, très bons affairistes d'ailleurs. Le seul bémol que je mets, c'est que aujourd'hui, la population économiquement est étranglée. Les prix ont flambé pendant le Ramadan, que ce soit les prix de l'énergie, l'électricité, le téléphone, enfin tout a flambé soudainement. Donc on est en train petit à petit d'essayer de remettre la tête sous l'eau de ces gens qui ont osé la relever. Hein, il y a un slogan qui m'a frappé en Égypte, ça a été Arfa Rasek Anta Masri, relève la tête haute, tu es égyptien, justement parce qu'ils avaient vécu 30 ans de soumission totale. Et effectivement, là, économiquement, donc je pense qu'il y a une pression très forte sur la population pour qu'elle rabaisse à nouveau la tête et pour qu'elle développe des stratégies de survie uniquement et ne cherche pas plus loin. Plus un autre phénomène que j'ai pu observer sur le Caire. Le Caire, c'est une ville quand même, c'est énorme le Caire, hein, c'est une grosse mégalopole où il y a des tas de quartiers où effectivement qui sont complètement laissés livrer au désordre, mais complètement. Ce qui fait que le réflexe des gens, c'est de se barricader chez eux. C'est des quartiers où il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien. Ils ont relâché, comme en Algérie, au début de la guerre des années 90, ils ont relâché les droits communs de prison. Hein, fallait bien faire de la place pour enfermer les autres. Donc ils ont mis en circulation peut-être 3000 délinquants comme ça, de gens qui avaient été jugés pour crimes, etc. Ils ont été relâchés dans la rue. Je pense que c'est une volonté, effectivement, de semer petit à petit la terreur dans la population. Enfin, la dernière chose que je voudrais signaler par rapport à ce que j'ai pu observer et qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on nous a signalé des phénomènes de disparition. Déjà dans les journées de janvier, février, mars, des familles, quand je dis on nous a signalé, il se trouve que je suis de temps en temps envoyée comme rechercheur par la Fondation Al Karama for Human Rights, dont le bureau est en Égypte, en Suisse, sur vraiment des cas sensibles, notamment on a beaucoup travaillé pendant des années donc sur les disparus en Algérie, et là on travaille sur des dossiers de prisonniers politiques. On a pris par exemple la défense de Wael Ali Ahmed Ali, Wael Aboulil, que j'ai connu sur le Miden, j'en parle de ce papier, qui était quelqu'un de très intéressant parce qu'à la fois il était issu des classes populaires, mais il avait été formé, c'était un très bon francophone, donc il a travaillé avec moi de temps en temps comme traducteur sur les interviews stratégiques frères musulmans, etc. Et il avait une capacité, comme il avait travaillé dans le tourisme, il avait une capacité d'organiser la seconde occupation. Donc c'était le logisticien de la seconde occupation de la place Tahrir. Il avait organisé vraiment la place Tahrir comme un camp de vacances. Donc il y avait absolument tout, c'était extraordinaire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelqu'un derrière, c'est pas possible, c'est comme au Club Med, il y avait tout. Donc il y avait les sanitaires, il y avait l'attente des rencontres et des conférences, il y avait l'infirmerie, tout était réparti, tout était surveillé, c'était vraiment impeccable. Et effectivement, quand il a été arrêté, ça m'a pas étonnée parce que c'est quelqu'un qui a une capacité donc de dialogue énorme, notamment avec les jeunes. Et il était petit à petit en train de former des jeunes, quoi. Il était en train de le faire. Et comme à cette époque-là, effectivement, la place avait été investie par les services intéressés par des repérages de personnes, justement, qui pouvaient être potentiellement des leaders de ces catégories populaires. Effectivement, un certain nombre de personnes comme lui ont été arrêtées. C'est pour ça qu'on a fait ce papier le concernant et c'est qu'on mène cette campagne avec le site web Tlaxcala et la Fondation musulmane Al Karama for Human Rights pour sa libération immédiate. D'autant qu'il est, il a fait l'objet d'un communiqué direct du Conseil suprême des forces armées, genre Wanted. Hein, ça a été violent, donc le 9 au matin, le lendemain de la répression, il y a eu la nuit de la répression, où on l'accusait effectivement d'avoir incité la population à l'émeute contre l'armée, d'avoir incendié des voitures et d'avoir provoqué ainsi la mort de manifestants sur la place Tahrir, ce qui est une accusation très grave. Donc dans un premier temps, déféré devant un tribunal militaire, Il a été acquitté, mais il a été acquitté pour mieux être accusé, puisqu'il a été, lui, maintenu en prison, alors que les trois personnes qui étaient accusées avec lui ont été relâchées, maintenues en prison, déférées devant une cour criminelle, cette fois juridiction criminelle, avec des charges plus lourdes. Et le procès donc devait commencer en Égypte. Je vous explique comment ça marche judiciairement. On vous accuse, on vous fait passer soi-disant par un processus d'enquête préliminaire. Ça peut durer très longtemps. Donc là, en l'occurrence, ça a duré depuis la date de son acquittement, le 11 mai, jusqu'au mois de juillet dernier. Donc où tous les jours on l'extrait de prison et le juge lui se resignifie qu'on prolonge sa détention de 15 jours. C'est très agréable en matière de torture psychologique, puisqu'évidemment, à chaque fois, il repasse par l'interrogatoire en bonne et due forme. Et donc, ce qui fait qu'en juillet, je suis allée effectivement en Égypte pour essayer de casser cette machine infernale, puisque je suis aussi témoin dans ce procès. Puisque finalement, en tant que journaliste, j'étais en permanence avec eux, et donc j'ai entre les mains effectivement toutes les preuves de son innocence, puisque j'ai pris énormément de photos. J'ai les témoignages des soldats qui sont venus ce jour-là au Midan Tahrir, puisqu'on l'accuse aussi d'avoir des relations avec des soldats, ce qui est très grave. Hein. C'est comme si on l'accusait de tentative de coup d'État. Et donc, il a été inculpé, déféré maintenant devant une cour criminelle. Et le procès, donc j'en reviens, a été reporté au 26 décembre prochain. On se bat sur ce cas parce qu'effectivement, pour nous, il symbolise, c'est le cas vraiment emblématique et symbolique de tous ces détenus qui ont été ramassés et jetés en prison. Donc une partie ont fait l'objet de jugements devant des tribunaux militaires, mais très vite, dès le mois de mars. Là-dessus, les organisations internationales se battent. Hein. Amnesty régulièrement fait des communiqués et demande à ce que les gens qui ont été condamnés devant les tribunaux militaires soient déférés devant des cours civiles. Mais sur des cas compliqués comme celui-là, effectivement, absolument personne ne se bat, puisqu'on considère que la justice égyptienne suit son cours normal. Alors que sur le cas de Wael, justement, ça s'est compliqué. Paradoxalement, ça s'est compliqué. Pour conclure, j'ai assisté à un fort mouvement d'espérance, en fait, d'une jeunesse égyptienne qui vraiment est prête, même maintenant, à se mobiliser, à se battre pour la justice sociale. Et ce qui m'a intéressée à ce moment-là, aux côtés de ces jeunes populaires, ça a été ces revendications de justice sociale, et notamment à travers le problème des familles de martyrs, de gens qui sont morts pendant les journées de révolte. Elles demandent justice. Justice ne leur a pas été encore rendue, et elles font actuellement l'objet d'une campagne de dénigrement monstrueux dans la presse égyptienne. C'est-à-dire que on retourne la crêpe sur leur tête en leur disant « Vos enfants sont morts parce qu'ils étaient des voyous ». C'est comme ça, c'est violent, hein. C'est très très violent. Pourquoi ? Parce que ça permet complètement de les isoler de la population. C'est des signaux qu'on envoie par la presse égyptienne. De la même façon que Wael s'est retrouvé accusé d'être un contre-révolutionnaire à la solde du régime. C'est des signaux envoyés à travers la presse égyptienne pour mettre à distance tout soutien possible à l'intérieur de la société. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que Wael ou les familles de Shahid, les familles de martyrs, sont complètement isolées dans leur coin. Sauf que ces familles, donc je suis allée les voir, ce qui est intéressant, c'est que dans leur quartier donc populaire, Matariya Imbaba, elles se sont constituées en collectif de 60 familles quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc ça, c'est une réalité qui est en train de se mettre en route et qui me rappelle effectivement les collectifs de familles de disparus en Algérie. Donc je pense, par mon expérience algérienne et par la connaissance que j'ai du monde arabe, que ce genre de combat, à partir du moment où il est appuyé, c'est-à-dire ces familles sont moralement armées, effectivement, ramènent les choses à leur place, c'est-à-dire posent les questions à leur juste place et à la question sociale. Et que je pense que c'est à travers ce type de combat, donc des familles de martyrs et des détenus politiques, puis c'est comme ça qu'il faut les appeler, même si on les a traités de voyous, des détenus politiques, qu'effectivement, les gens, nous devons nous mobiliser maintenant et arriver effectivement à ce que la société se mobilise autour de ces questions-là. Puisque malheureusement, le constat que je fais, c'est que les catégories qui étaient là présentes au début des manifestations de la place Tahrir, donc les jeunes des classes moyennes, un peu instruites, etc., elles ont constitué leur parti politique et vont aux élections. Donc ils sont dans le jeu, intégrés dans le jeu du Conseil suprême des forces armées, et que les autres sont effectivement ceux dont on ne veut pas dans ce jeu-là, est complètement marginalisé, et donc font l'objet, eux, d'une répression. Et je crains que cette répression ne s'amplifie si effectivement ils reprennent la contestation. Ouais, d'un coup, difficile. On voyait tous les yeux briller avec une énorme espérance, parce qu'il y avait cette expérience collective de la place Tahrir. C'est-à-dire que d'un coup, pourquoi j'ai titré avec les résistants de la République libre d'Égypte, c'est parce que soudain, la place Tahrir, c'était un territoire libéré. Mais c'était la réalité. La place Tahrir était un territoire libéré. Et c'est pour ça qu'ils défendaient pied à pied, en termes de territoire, vraiment, tout le pourtour de la place Tahrir. Soudain, ils s'étaient réveillés, les Égyptiens, alors que j'avais connu des Égyptiens avec le regard éteint, comme les jeunes maghrébins, exactement. Soudain, d'un coup, il y avait eu une irruption dans les regards. Et je vous assure que quand vous avez 1 million de personnes, mais moi, j'étais sur les tribunes en train de prendre des photos et j'étais au milieu de tout ça, qui sont là en train de communier en même temps, je vous assure que c'est euphorisant. Mais vraiment euphorisant, quoi. Il n'y a pas besoin de fumer. C'est... Tout le monde est heureux.
On ne bouscule pas.
Tout le monde est heureux. C'est apaisé, ouais. Et heureux. Ouais. C'est ce que j'ai senti. Alors que dans les rues du Caire, en dehors de ce périmètre, les rapports humains sont très violents. Je vous assure qu'il y a une violence en Égypte, sauf dans les zones touristiques, n'est-ce pas? Mais les zones touristiques sont interdites aux Égyptiens qui n'y travaillent pas. Donc, il y a vraiment une violence dans la rue, mais ça se sent complètement, quoi. C'est une société devenue très individualiste, quoi, où il n'y avait plus de lien. Et d'un coup, il y a du lien qui se reconstitue, place Tahrir. C'est une expérience exceptionnelle en ce sens, vraiment. Et en dehors de Tahrir, il n'y a plus de lien, quoi. C'est schizo, complètement. Où c'est chacun pour soi et c'est chacun pour la survie. Le Caire est une ville très, très dure. C'est vaut mieux être un Égyptien à la campagne qu'un Kairote. Hein. Ça, c'est clair et net. J'ai vu des scènes au Caire, par exemple, que je n'ai pas vues il y a dans les années 90. L'Égyptien, mentalement, s'est transformé. Je m'explique. Il y a une énorme oppression sous le système Sadat, qui s'est amplifié avec l'ultralibéralisme de Moubarak, donc une énorme injustice vécue à fleur de peau. Mais ce système, chaque Égyptien le reproduit, c'est comme un système totalitaire. Chacun est le maillon du système, finalement. C'est-à-dire que vous subissez une injustice et vous la reproduisez sur plus faible que vous. Et c'est pour ça que les systèmes dans le monde arabe tiennent. Mais ils ne tiennent qu'à ça, en vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens s'extraient du système, et l'expérience de Tahrir, ça a été ça, c'est que d'un coup, des gens se sont extraits du fonctionnement habituel de la société, donc du système. Ils se sont mis hors système. Et ils ont vécu une expérience parallèle. Moi, ça m'a fait penser, j'ai terminé sur les montagnes du Chiapas, quoi. Je me suis dit, mais s'ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire... L'Égypte est assez vaste pour qu'il constitue un Chiapas. Où sont les classes moyennes? Où sont ces jeunes éclairés de Twitter et de Facebook, justement, pour constituer des expériences alternatives? Puisque je pense que dans ces pays-là, la seule chose qui peut bousculer vraiment les régimes, ce sont des expériences concrètes alternatives et rien d'autre.
Par rapport au film, et moi j'ai remarqué deux choses qui me frappaient. Il y a cette joie de la rue, hein, chez certains, Et en même temps, quelque chose que j'ai trouvé assez effrayant, c'est une certaine manipulation d'autres. Hein. On les voit vraiment, ce jeune qui dit « Ah, mais pourquoi tu me fous là, comme on dirait un Palestinien ?» Enfin, on voit vraiment la manipulation de ce jeune-là organisé, très organisé, même quand il fait semblant d'être blessé à la tête. Et il y a ces deux filles, ce combat entre les deux filles, une qui dit « Oui, mais quand même, il faudrait une véritable constitution. » Et l'autre qui dit, qu'on sent bien que l'autre vient de ce système organisé des jeunes, il dit « Mais non, non, c'est pas juste pour faire tomber Moubarak. » Et puis voilà, on verra après quelques petits amendements. Enfin, je crois que déjà, je ne connaissais pas ce que tu as dit, écrit après, mais déjà, moi, ça m'effrayait totalement. Ça se voit dans le film. Mmh. Entre une joie innocente de certains et les autres qui tire les ficelles derrière, mais c'était effrayant. Mmh. Et j'ai une question par rapport à ça. Tu as comparé les jeunes musulmans, enfin les frères musulmans. Moi, j'avais entendu que c'était un mouvement social, populiste et tout ça, mais si, ce que j'entends de nouveau, c'est qu'ils le comparent aux évangélistes nord-américains, qui donc intéressés par la manipulation, mais par le fric aussi.
Ah, mais complètement.
Parce que je me demandais pourquoi alors les frères musulmans, s'ils font du social, pourquoi ils n'aident pas aussi l'opposition qui est maintenant ces jeunes que tu dis qu'ils sont arrêtés. Et alors, est-ce qu'ils se sont rangés du côté du fric et avec l'armée? Et donc, ces gens-là, ces frères musulmans, sont encore moins fréquentables que ce qu'on pouvait imaginer. Enfin, voilà.
Parce que c'est, encore une fois, le parti des frères musulmans, donc, qui n'était pas constitué en parti, c'était la confrérie des frères musulmans, qui a été, sous les différents régimes, tolérée ou réprimée. Hein. Chaque fois, ça a été répression, tolérance. On leur a ouvert une brèche sous Moubarak, effectivement, où ils ont pu faire leurs affaires, grimper dans la société. C'est des classes moyennes bourgeoises. Hein. J'ai un article qui est en ligne maintenant sur Tlaxcala dans plusieurs langues. Ça s'appelle « Les frères musulmans à la conquête du pouvoir ». J'ai fait une plongée tout de suite après Tahrir, j'ai fait une plongée chez les frères musulmans. Donc j'ai suivi Beltagi, j'ai suivi le nouveau parti des frères, je suis allée assister à leur meeting jusqu'à Ardaas, ce qui était assez hallucinant parce que c'est quand même un site touristique, Ardaas, donc c'était hallucinant de voir un meeting des frères musulmans dans un site touristique. Et effectivement, ce qui m'a paru de premier abord, au niveau de la ressemblance, c'était les WASP américains, directement, avec tout ce discours évangéliste, etc. Et puis, le pognon à côté, quoi. On fait nos affaires. Et le pognon qui leur sert à quoi? Eh ben, calmer la populace, voyons. À quoi ça sert l'argent dans ces cas-là quand on a effectivement des ambitions de diriger un pays et ils ont l'ambition de diriger l'Égypte? Ça sert effectivement à calmer la population qui, encore une fois, la majorité des Égyptiens vit en dessous du seuil de pauvreté, il faut le dire. Il y a un énorme problème d'analphabétisme en Égypte, d'illettrisme. L'Égypte est une société stratifiée. Donc, vous avez les catégories supérieures qui vivent à l'heure de New York. Hein, donc, ils sont équipés. Il y a absolument tout chez eux. Ultra moderne, il manque de rien. Il y a les super écoles pour les enfants. Il y a l'école américaine. Tout est là. Il suffit d'avoir l'argent. Et puis, vous avez le système soviétique pour les autres, quoi. Moi, j'ai halluciné. C'est-à-dire qu'il y avait encore tout l'ancien appareil mis en place par Nasser, hein. L'Égypte, à l'époque de Nasser, était un pays soviétisé. Donc, tout est encore là au niveau de la gestion de la population, hein, de la populace. Que ce soit quand vous en rendez compte quand vous avez affaire à l'administration, mais c'est des complications, c'est à devenir fou au bout de deux jours, quoi. Donc là, on s'en rend compte très vite. La gestion de la distribution des denrées de première nécessité, etc., c'est pareil. Ça m'a fait penser aux époques de Boumédienne, c'est pareil. Hein. Toute cette expérience-là où effectivement la gestion socialiste de la population. Et puis donc cette catégorie-là qui vit vraiment à l'heure de Twitter et d'internet et de voilà. Donc je pense qu'une des grosses difficultés de l'Égypte, elle réside là justement par rapport à une énorme population, cet écueil complet entre des castes carrément, des strates, le manque de perméabilité. C'est-à-dire qu'on appartient aux uns ou aux autres. Et je m'en suis rendu compte, effectivement, en essayant de mobiliser autour du cas des détenus politiques, justement des gens qui ont été jetés en prison et de Wael Ali, que beaucoup de monde connaissait sous la place, des gens des mouvements, justement, du 6 avril, Irtilef, etc. c'est effectivement des gens qui se mobilisent plus là-dessus. Ils sont passés à autre chose. Ce qui est quand même dommageable, ça veut dire qu'ils sont en train de rater le coche aussi. Puisque forcément, à partir du moment où ils se coupent des luttes sociales et des vraies luttes, eux-mêmes vont être isolés dans leur tour d'ivoire dans les assemblées nationales. Donc vont être coupés de tout aussi. C'est une façon aussi de les neutraliser, ça c'est clair.
Qui sont un peu à l'origine de ce mouvement et aujourd'hui qui pourraient justement prendre parti. Est-ce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui de pouvoir encore s'exprimer ou est-ce qu'ils sont mis un peu à l'écart justement par les frères musulmans?
Alors, d'abord, je rectifie une chose. Ceux qui sont à l'origine du mouvement populaire qui s'est déclenché en Égypte, du soulèvement populaire, c'est deux mouvements concomitants. C'est tout le collectif qui s'est mobilisé à Alexandrie autour du problème de l'assassinat de Khaled Saïd et des jeunes, puisqu'il y a eu des bavures depuis 2010 en Égypte, donc du rapport à la police. Et là, ça me fait penser au rapport des jeunes des quartiers populaires à la police et des luttes que nous avons menées dans les années 80 dans les quartiers. Je pense notamment à Nanterre, à Gennevilliers, etc. Donc toutes les luttes qu'on a menées contre l'assassinat de jeunes par les policiers à l'époque, hein, j'ai 51 ans, je vous le dis parce que sinon ça va vous étonner. Donc j'ai un vécu et notamment cette lutte-là antiraciste entre guillemets, mais le problème à l'époque c'était l'assassinat de jeunes par la police. Donc même phénomène sur Alexandrie où il y a une forte mobilisation, donc la famille de Khaled Saïd plus d'autres familles qui se sont réunies et qui elles ont appelé effectivement à une mobilisation le 25 janvier et les travailleurs de Mahalla Kubra et de Suez. Ça je tiens à le dire, c'est pas Twitter, c'est pas les classes moyennes, c'est pas Facebook qui a mobilisé, ça a été un média de communication. Comme nous, à l'époque, on prenait le téléphone pour dire « il y a manif à tel endroit », mais sans plus. Qu'ils se soient greffés sur ces luttes, parce qu'ils ont été formés, effectivement, certains d'entre eux, des cadres, et tu l'as très bien repéré dans le film, ont été formés dans des ateliers de Freedom House, donc effectivement, c'était le moment d'encadrer. Effectivement, oui, ils sont venus, ça c'est clair et net. Mais ces jeunes-là, des classes moyennes, effectivement, quand l'armée a dit « vous vous retirez », elles se sont retirées. Ça a été le signal. Le premier signal, ça a été le 9 mars. Deuxième signal, le référendum, tout est fini. Plus aucune raison de rester manifester. Et après le référendum, effectivement, les manifestations, c'était très tendu sur la place Tahrir, quoi. Moi, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient nous tomber dessus. C'était clair et net que je les voyais arriver, quoi. Ils allaient nous tomber dessus. Ensuite, que cette catégorie-là, donc que ces jeunes organisés dans leur parti maintenant, puisque les jeunes de la coalition se sont dispersés, ont chacun créé leur parti pour aller aux élections, qui se retrouvent, comme dans les autres pays, effectivement, et je pense notamment à l'Algérie où l'expérience s'est produite, isolés des catégories sociales et des questions sociales, et ben c'est leur histoire, ils seront isolés. Et qu'ils soient noyés par les frères musulmans, ben c'est leur histoire. Ils seront noyés par les frères musulmans, ça c'est clair et net. Et ils serviront d'alibi à une pseudo-démocratisation du pays, ça c'est clair et net.
Oui, moi je voudrais revenir sur le film pour dire que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui a été bien fait, enfin c'est mon impression. On a envie de croire qu'il est complètement objectif, il n'y a pas de parti pris. On a bien vu ce qui se passait de l'intérieur, ce qui n'est pas facile à faire. Et qui a été bien filmé. Et puis, mais alors, ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de références à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui, de notre point de vue, enfin, je veux dire, nous, Français ou Européens, est sûrement pas habituel dans ce genre de circonstances. Alors, votre analyse est inquiétante. Moi, je la découvre. Vous êtes en train de dire que finalement tout ça, ça va être un feu de paille.
C'est pas tout à fait ce que je dis.
Bon, mais je voudrais, avant que vous m'expliquiez tout ça, je voudrais quand même dire que le printemps arabe est quelque chose qui nous marque beaucoup. Vous avez l'air de dire que l'Égypte, finalement, ça risque de pas donner ce qu'on avait espéré, Mais que pensez-vous de la Tunisie ? La Tunisie, moi, c'est un pays que je connais plutôt. J'y vais régulièrement. J'enseigne à l'école d'ingénieurs de Tunis. J'y vais de temps en temps. J'ai beaucoup parlé avec les Tunisiens et j'ai envie de croire que ça va marcher pour eux. Alors, est-ce qu'il y a une différence que vous ressentez là ?
Il y a une grande différence. Alors, pour revenir à cette question de religiosité, pas de Dieu, de religiosité, on est au Moyen-Orient et les sociétés orientales sont très religieuses, imprégnées de religiosité. Donc, que ce soit les musulmans ou que ce soit les chrétiens, il y a toujours une référence à Dieu, notamment dans des situations pareilles où les gens étaient vraiment prêts à mourir sur la place. Donc à un moment donné, il y a une traduction qui a été très mal faite. Dieu nous vengera. En vrai, ce qui était dit, c'est hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça veut dire accroche-toi à Dieu et agis. Ce qui n'est pas tout à fait le même sens. Donc ce qui est pas et tout est comme ça, si vous voulez. Donc c'est des sociétés culturellement imprégnées de valeurs religieuses. Ça ne veut pas dire que à chaque fois qu'on entend Allah Akbar, on a affaire à un intégriste, quoi. Non, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez, moi, ce qui m'a servi de garde du corps dans les moments les plus chauds de la place Tahrir, ça a été une femme en niqab, quoi. C'est Fatima qui me dit, viens à la place, c'est trop chaud, allez hop, viens, je t'embarque. Ça a été ça, quoi. Donc, en même temps, c'est vrai que les apparences sont très trompeuses. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de barbus, par exemple. Je suis allée les seules à avoir manifesté, osé manifester devant le ministère de la Défense nationale où siège donc le Conseil suprême des forces armées pour la libération des détenus politiques, c'est les salafistes. J'ai des photos. Je suis allée manifester avec eux, ils m'ont fait un super accueil. Mais c'est les seuls à être allés manifester pour la libération des détenus politiques, quoi. Donc tout est brouillé, nos repères sont complètement brouillés quand on arrive dans une société pareille. Si on y arrive avec nos schémas là, bien idéologiques d'ici, effectivement, on va avoir peur, même très peur. Mais si on y regarde d'un petit peu plus près, et qu'on commence à comparer les tendances, les mouvements, etc., et les postures politiques, on se rend compte que c'est pas très loin des représentations qu'on a en France, qu'on a des partis conservateurs, qu'on a des religieux individualistes. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, par exemple, c'est que des salafistes constituent un parti politique. Pour moi, c'est nouveau. Pourquoi ? Parce que les salafistes, théoriquement, c'est une démarche individuelle. Donc, ça m'étonne. En général, ils fonctionnent en une petite collectivité, dans les quartiers, et ils vivent à leur rythme, ils se donnent leurs règles, ils vivent entre eux, un petit peu comme des mormons ou des quakers, quoi, des quakers. Et là, d'un coup, ils créent un parti politique. Donc là, je rigole. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas, là. J'ai raté quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai un regard, j'ai la chance d'avoir cette biculture qui me permet de faire des va-et-vient dont, entre nos schémas français et cette réalité du monde musulman que je connais bien et ses valeurs musulmanes, effectivement, moi, les frères musulmans, quand ils me voient arriver, ils rient jaune parce qu'ils peuvent pas me raconter des bobards, quoi. C'est impossible. Les références, je les ai. Donc, ça donne, dans le papier que j'ai indiqué, les frères musulmans à conquête du pouvoir, effectivement, à un moment, un dialogue avec l'équivalent du représentant des frères musulmans pour le gouvernorat de Giza, c'est pas loin, c'est pas rien, Adel Afifi. Donc je suis chez lui, je me rends compte que tout ce que je vois chez lui, c'est très occidentalisé. Ce qui leur reste, en fait, c'est que sa sœur, elle a une tenue très sobre, façon victorien des Suèves, avec un foulard sur la tête, très bien mis, quoi. Mais tout le reste est complètement occidental à l'intérieur. Hein, c'est ça que je vois. Et donc, je le ramène aux références, donc, pour le titiller sur les affaires de voile. Donc, il va me chercher la sourate du Coran et je le titille dessus. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il rit jaune parce qu'il dit, oh là, celle-là, elle me cherche des poules, là, ça va pas. Et en même temps, eux, c'est, quelque part, ils sont dans une posture, effectivement, d'instrumentalisation du religieux. Donc, c'est de l'idéologie. Tout comme d'autres se sont servis d'autres textes, que ce soit religieux ou du marxisme, pour effectivement idéologiser et avoir un maximum de lectorat, etc., etc. Sauf qu'avec la religion, effectivement, donc pour répondre à ça, c'est dangereux. Parce que la religion touche à l'irrationnel. Et qu'à partir du moment où on se fait le monopole du discours religieux, effectivement, ça veut dire qu'on a un discours excluant ou exclusif. Bon. Et là où effectivement une majorité de musulmans dans le monde musulman les combat, c'est là-dessus. C'est cette captation du discours religieux qui fait que soudain, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous devenez un païen. Donc ça a été mes multiples débats avec des députés suspendus du FIS qui se sont réfugiés en Suisse. Et ces débats ont fini effectivement par avoir des résultats très positifs, puisque c'est avec un certain nombre de ces députés et des avocats qu'on a fondé El Karama for Human Rights, qui est une organisation internationale spécialisée de la défense des droits de l'homme dans le monde arabo-musulman. Mais c'est un boulot, c'est un vrai travail de longue haleine et de discussion, si vous voulez, avec eux, sur cette captation du religieux.
Prochain rendez-vous des Jeudis en question sur CFM, la semaine prochaine, à la même heure.